Jazz and Blues, bonjour. C'est Bernard à l'antenne de JN Jazz and Blues, l'émission sur Radio U 101.1. Voilà. Et donc, je continue avec l'histoire des basses. Et ça doit être le cinquième volet de l'histoire des basses. Et on continue avec les contrebassistes. La semaine dernière, je vous avais fait écouter Jimmy Blanton. On va le réécouter aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup l'écouter. Et puis, j'ai pas eu le temps de vous dire un petit peu ce qu'il était. C'est un contrebassiste américain, né en octobre 1918 à Chattanooga, dans le Tennessee, et mort le 30 juillet 1942 à Los Angeles, en Californie. Il a une carrière fulgurante, puisqu'il n'a pas duré longtemps. En deux ans, il a révolutionné l'instrument dans le cadre choisi de l'orchestre de Duke Ellington. Il apprend très jeune le violon avec sa mère, qui dirige un orchestre, et la théorie musicale avec son oncle. Élève du Tennessee State College, il apprend la contrebasse et fait partie de l'orchestre de l'école, puis de plusieurs orchestres locaux, dont celui de Fat Marable, qui se produit sur les Riverboat. Il abandonne ses études en 1937 et part à Saint-Louis, où il intègre le Jeter Pillars Orchestra. C'est à Saint-Louis que Duke Ellington le découvre. Il l'engage pour partager le poste de contrebassiste de son orchestre aux côtés de Billy Taylor jusqu'en février 1940, où désormais il est le seul titulaire de l'instrument. Mais Jimmy Blanton est atteint de tuberculose et doit quitter l'orchestre fin 1941, remplacé par Junior Raglin. Hospitalisé à Los Angeles fin 1941, il décède quelques mois plus tard à l'âge de 23 ans. Jimmy Blanton est le cousin de Wendell Marshall, également contrebassiste de Duke Ellington. Son style est bien s'engouffrant dans la voie ouverte par Milt Hilton, John Kirby et Sam Stewart. Jimmy Blanton achève de libérer la contrebasse de son rôle de simple soutien rythmique et harmonique pour en faire une voix à part entière, un instrument mélodique capable de prendre le chorus. La souplesse de son jeu tranche avec la raideur de celui de la plupart de ses prédécesseurs. Son attaque est franche, sa sonorité est chaude et ronde, et ses suiveurs sont légion. pour n'en citer que quelques-uns, Ray Brown, Charlie Mingus, Oscar Pettiford et Scott LaFaro. On va les écouter tous. Sans aux côtés, Richard Davis, possesseur depuis les années 1950 de la contrebasse de Jimmy Dlanton que lui donna Wendell Marshall. Ses chorus dans Jack the Bear du 6 mars 1940 marqueront une date dans l'histoire de la contrebasse comme le Body and Soul de Conmal Hawkins le sera pour le saxophone ténor. Et nous allons écouter un poulet. Et nous allons écouter donc Peter Panther Pater par Jimmy Blanton. C'était Jimmy Blanton, donc dans Peter Panther Pater. Et maintenant, nous allons écouter Israel Crosby, qui est un contrebassiste américain, toujours de jazz, 1919-1962. Pardon. Il est surtout connu pour sa participation au premier trio d'Amal Jamal. Israel Crosby est né le 19 janvier 1919 à Chicago. Il se passionne très tôt pour le jazz. Il commence par jouer de la trompette avant de s'orienter vers la contrebasse en 1934. Il se forge très tôt un style très particulier qu'il exposera notamment dans ses enregistrements avec Roy Eldridge et l'orchestre de Teddy Wilson. En 1937, Crosby remplace John Kirby dans le groupe de Fletcher Anderson. Kirby était reconnu comme un très bon bassiste et Israel Crosby relèvera avec brio le défi de sa succession pendant 7 années qui suivront. En 1940, il rejoint le groupe d'Horace Henderson, le frère de Fletcher, grand compositeur et arrangeur. La réputation de Crosby est alors solidement établie. Il est reconnu comme l'égal de Jimmy Blanton, de John Kirby, de Walter Page ou de Milt Hinton. Il a déjà travaillé avec les plus grands, Albert Hammond, Charlie Christian, Benny Goodman ou Jane Krupa. Mais le meilleur est encore à venir. Israel Crosby rejoint Ahmad Jamal en 1951 pour former le The Three Strings, l'un des plus célèbres trios du moment. Crosby quitte Jamal en 1953 pour travailler avec Benny Goodman, mais il le rejoindra à nouveau en 1956 pour enregistrer un album au succès fulgurant, Ahmad Jamal at the Pershings. Dont le titre Poishana demeure 108 semaines au Billboard américain. La cohérence entre Jamal, Crosby et Verneuil Fournier à la batterie est remarquable. L'album But Not For Me sera de la même veine et la version Poishana qu'il comporte peut-être considéré comme l'un des actes de naissance du funk. Ahmad Jamal dissout le trio en 1962 et Israel Crosby est aussitôt embauché par le pianiste George Shearing. Ensemble, ils travailleront à la formation d'un quintet, mais Crosby tombera rapidement malade. Il décède d'une crise cardiaque le 11 août 1962 à l'âge de 43 ans. Et nous écoutons Should I d'Israel Crosby. Control the Eye par Israel Crosby. Et on va passer à Georges Duvivier, mais ne croyez pas que ça va être un français, mais non. Non, Georges Duvivier est né à New York en 1920 et effectue durant son adolescence des études de musique, principalement de violon. Influencé par l'univers du jazz, il abandonne le violon pour la contrebasse, jouant notamment de cet instrument en 1937 avec le Royal Baron Orchestra. Il travaille ensuite avec le saxophoniste Coleman Hawkins en 1941 et jusqu'en 1942 avec le groupe Lucky Millinder et Eddie Barfield. Il rejoint l'armée de 43 à 45 pour effectuer son service militaire, composant des arrangements pour le chef d'orchestre et saxophoniste Jimmy Lunsford jusqu'en 1947. Il joue ensuite de la contrebasse en indépendant, accompagnant de nouveaux groupes et au début des années 1950 effectue des tournées en Europe avec des chanteuses telles que Pearl Bailey, Lena Horne, faisant aussi une apparition aux côtés du vibraphoniste Teddy Gibbs en 1952. Il est de 1953 à 1956 le contrebassiste de Bud Powell, participant notamment à la session d'enregistrement de l'album The Amazing Bud Powell Volume 2, sur lequel il effectue des arrangements. Il enregistre aussi pour Herbie Nichols l'album Love, Gloom, Cash, Lovely, Love en 1957, rejoint le saxophoniste ténor Eddie Lockjaw Davis, l'organiste Shirley Scott et le batteur Andrew Edgehill de 1957 à 59. Au début des années 60, il joue avec le saxophoniste Olivier Nelson, Eric Dolphy ou encore le pianiste Mal Wadron et participe à de nombreux festivals aux États-Unis et en Europe. Il réalise une tournée avec Ann Jones et Benny Carter dans les années 1970 et participe aussi aux enregistrements avec des duos tels que Al Cohn et Zoot Sims ou Sims avec Joe Venuti et encore Herb Ellis et Remo Palmier pour l'album Windflower en 1978. Duvivier décède à 64 ans d'un cancer à son domicile de Manhattan en 1985. Et nous allons écouter Collard Green and Blackie Pierce, Georges Duvivier. Thank you. c'était Georges Duvivier, et puis maintenant on va parler de Charlie Mingus. Mais alors, Charlie Mingus, on pourrait rester quelques heures à parler de Charlie Mingus et de la contrebasse, mais bon, on ne va pas le faire puisque je fais un peu un inventaire de tous les contrebassistes. Donc voilà, je vous parle rapidement de Charlie Mingus, qui est né Charles Mingus Junior le 22 avril 1922 à Nogales, dans l'Arizona, et il est mort le 5 janvier 1979 à Cuernavaca, au Mexique. Et c'est un contrebassiste, compositeur, pianiste de jazz américain. Il était aussi connu pour son engagement antiraciste. Il a apporté une contribution majeure au jazz, à la fois en qualité de compositeur et de chef d'orchestre, mais aussi en tant qu'instrumentiste. De nombreux musiciens sont passés par différentes formations pour ensuite se lancer dans des carrières impressionnantes. Ses compositions, bien que mélodiques et marquantes, ne sont pas souvent reprises, ce qui peut être dû à son caractère non conventionnel. Son tempérament excentrique est souvent effrayant, presque aussi connu que sa musique. Son refus de compromettre son intégrité artistique et un certain nombre d'expériences traumatisantes liées au racisme ont provoqué de nombreuses éruptions de colère sur scène et ailleurs. Une grande partie de la musique de Mingus est basée sur l'énergie du bebop et du hard bop, dans une forte influence du gospel. Mingus utilise aussi fréquemment des éléments du third stream, du free jazz, du jazz Nouvelle-Orléans et même de la musique classique, tout en évitant toujours les catégories et en créant une musique personnelle. Il s'intéresse à l'improvisation collective et est très attentif à l'interaction de chaque musicien. Avec la formation entière, il écrit des parties instrumentales en tenant compte des spécificités de ses musiciens et ce qui le rapproche des méthodes de Duke Ellington, pour qui il a une admiration sans limite. Atteint de sclérose latérale amyotrophique, il passe la fin de sa vie dans un fauteuil roulant. Les premiers symptômes de paralysie apparaissent au printemps 1977 et le diagnostic est établi le 23 novembre 1977. Sa dernière apparition sur scène a lieu au State University Theater à Phoenix, dans l'Arizona, pendant l'automne 1977. Il est reçu par le président Jimmy Carter à la Maison Blanche le 18 juin 1978 et décède 6 mois plus tard à Cuernavaca, au Mexique. Le Mingus Big Band, qui continue de donner des concerts, a été créé par Sue Mingus après la mort de son mari, dont l'objectif est de jouer de la musique de Mingus, y compris les nombreuses compositions qui ont été découvertes après sa mort. Voilà. Alors, il a aussi écrit un bouquin, il en a écrit peut-être d'autres, mais je ne connais que celui-là, qui s'appelle « Moins qu'un chien » et qui témoigne de la façon dont ont été traités les artistes noirs aux États-Unis ou les noirs d'une manière générale aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant à lire et de très édifiant, je vous le recommande. Et en attendant, on écoute « Mingus Finger » par Charlie Mingus. Thank you. Donc, évidemment, c'est loin de la musique que je vous fais écouter d'habitude, mais bon, c'est l'évolution des contrebassistes, et puis voilà, donc c'était Mingus Finger de Charlie Mingus. Et puis, ben écoutez, on va faire un petit poulet encore. Et on va parler de Oscar Pettiford. Oscar Pettiford, né en Oklahoma, d'une mère Choctaw et d'un père mi-Cherokee, mi-Afro-Américain. En 1942, il intègre l'orchestre Charlie Barnett et en 1943, il attire l'attention après avoir enregistré avec Coleman Hawkins sur The Man I Love. À cette même période, il enregistre aussi avec Earl Hines et Ben Webster. Lui et Dizzy Gillespie dirigent un groupe de bebop en 1943. En 1945, Pettiford se rend en Californie avec Hawkins. Il apparaît dans The Crimson Canary sur un film connu pour sa musique originale. Il joue ensuite avec Duke Ellington de 1945 à 1948 et avec Woody Herman en 1949 avant de jouer surtout comme leader dans les années 1950. En 1958, il déménage à Copenhague et l'enregistre pour des labels européens. Oscar Pettiford meurt en 1960 d'un virus proche de celui de la poliomyélite. Pettiford est considéré comme le pionnier du violoncelle en tant qu'instrument soliste et jazz. En 1949, alors qu'il a un bras cassé, Pettiford ne peut jouer de la basse et s'essaye au violoncelle prêté par un ami. Il l'accorde en quarte comme une contrebasse, parce que le violoncelle est accordé en quinte, mais une octave plus haut. Il enregistre pour la première fois avec un violoncelle en 1950. Le violoncelle devient alors son second instrument et il continuera à en jouer tout au long de sa carrière. Et nous allons écouter Stardust par Oscar Pettiford. Thank you. Stardust par Oscar Pettiford. Et on continue avec Percy Ells. Percy Ells, né le 30 avril 1923 à Wilmington, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et décédé le 28 avril 2005 à Southampton, aux États-Unis, est un musicien de jazz américain. Il fut contrebassiste du MJQ Modern Jazz Quartet. Il a joué avec les géants Dizzy Gillespie, Miles Davis, mais aussi avec ses frères Albert Tutti Ells, batterie, et Jimmy Ells, saxophone ténor. Il est présent sur le célèbre album de Wes Montgomery, The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, aux côtés de Tommy Flanagan au piano et de son frère Albert. Il demeurait à Montauk, dans Long Island, et il était un pêcheur averti. Son bateau, le Bass Finder, jeu de mots puisque bass est aussi un poisson en anglais, était connu de tous les amateurs de turbo fluke. Sa contrebasse avait été trouvée à Berlin par son ami Pierre Michelot, dont on parlera plus tard, qui, après l'avoir essayé, a téléphoné à Percy en lui suggérant fortement de l'acheter. Percy accepta et ce fut toujours son instrument avec les restaurations dues à une véritable dame. Il a également composé quelques morceaux, dont Watergate Blues. Et donc, nous allons écouter One Bass avec Percy Ells. One Bass Hit par Percy Ells. Et maintenant, maintenant, nous passons à Ray Brown. Ray Brown, né Matthews Brown, le 13 octobre 1926 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, est décédé le 2 juillet 2002 à Indianapolis, est un contrebassiste de jazz américain. Ray Brown étudie d'abord le piano, mais déteste s'exercer et décide à l'école de passer à la contrebasse, persuadé qu'il est que cet instrument, avec ses 4 cordes, sera plus facile à manier que les 88 touches. À vrai dire, il avait envie de jouer du trombone, mais il fallait acheter son instrument que son père ne pouvait pas lui payer. Il a donc choisi la contrebasse que le conservatoire pouvait lui prêter. Il apprend d'oreille et se met même à travailler son instrument. Il est très doué et se produira rapidement à Pittsburgh. Une fois son diplôme d'université en poche, il part en tournée avec divers orchestres. À 20 ans, il part pour New York et se confronte aux musiciens locaux. Il est rapidement engagé par Dizzy Gillespie, qui lui réserve une place dans son groupe, qui comporte également Charlie Parker au saxophone, Bud Powell au piano et Max Roach à la batterie. En 1948, il fonde son propre trio et épouse Ella Fitzgerald en 1947, avec qui il adopte un enfant. Ray Brown Jr., né le jour de son 23e anniversaire. C'est le fils de la demi-sœur d'Ella Fitzgerald. Le 13 octobre 1949, il rencontre Norma Granz, qui fait partie des tournées de Jazz at the Philharmonic. Il divorce d'Ella Fitzgerald en 1953. Entre 1951 et 1966, il est membre du trio d'Oscar Peterson. Lorsqu'il quitte Oscar Peterson, il s'installe à Los Angeles pour jouer, composer pour le cinéma et profiter du climat agréable de la Californie. Il y mène également une carrière de manager pour des gens comme Quincy Jones ou le MJQ Modern Jazz Quartet. Pendant un certain temps, il est même le directeur du Monterey Jazz Festival. La longueur de sa carrière interdit de le classer dans un genre particulier de jazz. Il a vécu les époques mainstream, big band, bebop, hard bop. Oscar Peterson et lui ont enregistré ensemble 240 albums. Eh bien, on va écouter un. C'est The Surrey with Fringe on the Top Play. Et avec ses bras. Thank you. sûr, et With the Fringe on Top par Ray Brown. Et nous allons terminer l'émission par Red Mitchell. Case Moore Mitchell, plus connu sous le nom de Red Mitchell, est un contrebassiste de jazz américain, compositeur de jazz, parolier et poète. Il est le frère de Whitey Mitchell. Il est né le 20 septembre 1927 à New York et s'est éteint le 8 novembre 1992 à Salem, dans l'Oregon. Il a été élevé dans le New Jersey par un père ingénieur et mélomane et une mère qui aimait la poésie. Ses premiers instruments furent le piano, le saxophone alto et la clarinette. Bien que l'université Cornell ait attribué une bourse d'ingénieur à Mitchell en 1947, il part faire son service militaire à l'US Army comme contrebassiste. L'année suivante, il débute dans un trio de jazz à New York City. Mitchell commence à être connu pour ses spectacles et son travail très appliqué en session d'enregistrement avec Myrtle Lowe, Shubby Jackson, Charlie Ventura, Woody Herman, Red Norvo, Jerry Mulligan. Après avoir rejoint la scène le jazz West Coast au début des années 1950, il enregistre avec André Previn, Shelly Mann, Hampton House, Billie Holiday, Stan Schelzer, Ornette Coleman et d'autres. Il travaille comme bassiste dans les studios de cinéma et de télévision autour de Los Angeles, apparaissant occasionnellement à l'écran. Mitchell apparaît aussi dans des documentaires sur Tal Farlow et Zul Sims. Avec le saxophoniste Harold Land, il fonde et dirige un quintet au début des années 1960, et avec Carmel Jones à la trompette et Frank Stratzer au piano et Léon Pettis à la batterie. En 1966, il commence à accorder sa contrebasse à la quinte, comme le violon alto ou la violoncelle, tandis que les contrebasses et les guitares sont accordées à la carte. Sa méthode ouvrira beaucoup de champs de possibilités pour les bassistes. Mitchell émigre à Stockholm en 1968 et gagne un Grammy Award suédois en 1986 et en 1991 pour ses enregistrements en tant que pianiste, bassiste et vocaliste, ainsi que pour ses compositions et ses paroles poétiques. Durant cette période, Mitchell enregistrera avec Clark Terry, Lee Konitz, Herb Ellis, Jim Hall, Joe Pass, Kenny Barron, Hank Jones, Ben Webster, Bill Mays, Wern Marsh, Jimmy Rowles, Phil Woods, Roger Kenané, Peter Wiemann et d'autres. Fréquemment, il collabore à des duos, notamment avec le pianiste Roger Kellaway au milieu des années 1980, ce qui demeurera certainement comme son duo le plus réussi. Mitchell décide de retourner vivre aux États-Unis au début des années 92 et s'établit en Oregon. Il n'en profitera hélas pas beaucoup. Il décède à l'âge de 65 ans en novembre 92. Une collection de ses poésies a été publiée à titre posthume. Son épouse prépare actuellement une biographie posthume. Et nous allons écouter comme dernier morceau, probablement, Remember You par Red Mitchell. Thank you. I'll remember you, Red Mitchell. Et l'émission se termine. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec de nouveaux contrebassistes, plus récents, peut-être musique un peu plus récente encore. Et puis voilà, passez une bonne semaine. Un petit poulet pour terminer.